Vous écoutez On lit pour vous.
Les femmes et les enfants d'abord. Vraiment? Une chronique de Samuel Larochelle, parue le 27 août 2024 dans le magazine Fugue. Un iceberg, un incendie, une attaque de pirates. Le bateau coule. Le mode survie s'enclenche. On se dirige vers les chaloupes de sauvetage. Il n'y en a pas assez pour tout le monde. Les femmes et les enfants d'abord. Si cette doctrine semble chevaleresque, elle est profondément sexiste et pas aussi souvent appliquée qu'on le pense. En Amérique et en Angleterre, on a longtemps cru que Dieu décidait de qui survivait au grand malheur et que les hommes pouvaient tenter de sauver leur peau. Puis, au milieu du 18e siècle, les philosophes des Lumières ont accordé une grande importance à la responsabilité humaine, en percevant les femmes comme les protectrices de la famille. La société s'est mise à condamner les hommes qui survivaient aux naufrages dans lesquels les femmes se noyaient. L'idée de prioriser les petits et les femmes a pris du galon à partir de 1852, lorsque le HMS Birkenhead, un navire de la marine royale britannique, a coulé. Pendant que femmes et enfants prenaient place dans les chaloupes de sauvetage, les hommes les observaient en restant au garde-à-vous avant de presque tous mourir. Leur geste fut perçu comme un tel geste de virilité qu'on l'a surnommé le Birkenhead Drill. La noblesse a vanté la pratique et les journalistes et écrivains en ont fait un exemple de sacrifice chevaleresque sur papier. Il est vrai que les bateaux ont longtemps transporté un nombre insuffisant de chaloupes de sauvetage pour accueillir toutes les personnes à bord. Le Titanic en est malheureusement la preuve. Si le navire avait eu assez de chaloupes, ou si Kate Winslet avait fait plus de place sur sa porte, Leonardo DiCaprio ne serait jamais mort gelé. Pardon, je m'égare. Dans la réalité, on a dénombré plus de 1500 morts. 25 % de femmes, 53 % d'enfants et 82 % d'hommes. Si la logique de secourir d'abord les plus faibles a été respectée en 1912, ces priorités de sauvetage ne tiennent pas la route. Un siècle plus tard, des Suédois ont étudié le taux de survie des femmes et des enfants en analysant 18 tragédies maritimes survenues entre 1852 et 2011 qui ont touché plus de 15 000 personnes. Dans l'étude « Gender, Social Norms and Survival in Maritime Disaster », on apprend que les hommes survivent deux fois plus que les femmes et que le taux de survie des enfants atteint 15 %. Donc, le Titanic et le Birkenhead sont des exceptions. Néanmoins, la culture populaire continue d'entretenir le mythe voulant que les hommes doivent faire passer la vie des femmes et des enfants avant la leur. Si je suis d'accord avec l'idée de prioriser la jeunesse qui a un plus grand futur devant elle, j'ai du mal à adhérer au reste. En 2024, dans un monde qui tend à accorder moins d'importance au genre et à promouvoir le fait que tous les humains devraient être égaux, je ne vois pas pourquoi l'identité de genre devrait être utilisée pour déterminer qui doit survivre et qui doit mourir. Si vous me dites que les hommes ont des caractéristiques biologiques qui les rendent souvent plus forts et donc plus utiles que les femmes pour gérer un désastre et permettre à un maximum de personnes de survivre, je répondrai que vous sous-estimez la puissance de plusieurs femmes, leur instinct de protection renversant et leur intelligence pour venir en aide au plus grand nombre. Tant et aussi longtemps qu'on croira que les hommes doivent se sacrifier pour sauver les femmes, on entretiendra l'image de protection, de force et d'abnégation qu'on leur impose depuis la nuit des temps. En d'autres mots, si on perpétue l'idée que les hommes doivent sauver les femmes en général, et pas seulement si le Titanic 2 coule à son tour, on permet à l'un des plus tristes aspects de la masculinité toxique de traverser le temps. Cette définition du masculin pousse des millions d'hommes à se voir comme les pourvoyeurs de leur famille, à faire plus d'argent que leurs partenaires, à trouver des solutions à tous les problèmes, à réparer tout ce qui brise dans la maison, à être le conducteur de la voiture en toutes circonstances, à croire qu'il doit être celui qui réconforte l'autre, à être convaincu qu'il doit être la grande cuillère parce qu'il est physiquement plus grand et plus large, à ne pas se plaindre en cas de douleur physique, à éviter de partager ses états d'âme, à ne pas développer une relation avec son monde intérieur et ses émotions, à refuser de demander de l'aide et à ne jamais consulter un ou une professionnelle en santé mentale. On parle ici d'une série de croyances qui encouragent les hommes à ne pas prendre soin d'eux et à ne pas se sauver eux-mêmes. Ces réflexes entraînent des souffrances jamais exprimées, des dépressions, des séparations et des suicides. Imaginez combien on pourrait sauver les Jacks de ce monde si on leur apprenait à s'occuper d'eux-mêmes et à demander une petite place sur une porte de bois qui flotte dans l'océan de leur malheur. C'était « Les femmes et les enfants d'abord, vraiment ?» Une chronique de Samuel Larochelle, parue le 27 août 2024 dans le magazine Fugue.
Retrouver le désir après le deuil. Un texte de Joanne Mercier, paru à l'automne 2024 dans le magazine Virage. À la mort de l'être aimé, déni, colère, tristesse et dépression font partie d'un processus quasi inévitable qui évolue de façon générale vers l'acceptation du départ de l'autre et de sa propre solitude. Faire son deuil. C'est aussi faire face à la femme ou à l'homme dont les besoins de tendresse et de sexualité renaissent. Comment aborder cette nouvelle réalité? Au début, j'avais la tête dans le sable, confie Louiselle, 72 ans, dont le mari est décédé d'un cancer il y a 6 ans, après 40 ans de vie commune. J'étais complètement replié sur moi-même. J'avais des œillères, je fonctionnais comme une automate. Puis, tout à coup, est arrivé un homme qui apparemment s'intéressait à moi, même si je n'avais rien remarqué. Il m'a invité à souper, et j'ai accepté à reculons. Un sentiment de culpabilité. Louiselle, qui s'est peu à peu investie dans une nouvelle relation, a eu l'impression de tromper son mari. Pour Nathalie Parent, psychologue, renouer avec le désir et le sentiment amoureux est très difficile lorsque le conjoint décédé a été le premier amour et le seul que l'on ait connu. Il y a souvent beaucoup de culpabilité associée à l'attrait que l'on a pour un autre homme, le premier rendez-vous, le premier baiser. Se retrouver au lit avec lui peut même être vécu comme une trahison, tant l'alliance avec la personne décédée demeure forte. Avec le recul, Louiselle considère qu'accepter l'invitation d'un autre homme, c'est une chance que la vie lui a offerte de se sortir la tête hors de l'eau, ajoutant que, vu son âge, elle n'avait pas de temps à perdre. Et la culpabilité dans tout ça? Pour moi, elle s'est atténuée. Quand j'ai osé dire à mes proches que je voyais un autre homme, j'avais besoin de leur absolution pour redevenir libre. on n'a plus 20 ans. N'empêche, ce nouveau départ n'a pas toujours été simple, d'autant plus que c'est avec son défunt mari qu'elle avait apprivoisé la sexualité. Je ne savais pas comment ça fonctionnait le corps d'un autre homme. Je ne savais pas à quoi pouvait ressembler un autre pénis, ni ses réactions. Il me fallait recommencer à zéro sexuellement avec un nouveau partenaire. Et que dire d'avoir à se dévêtir devant un étranger, un véritable cauchemar, surtout avec un corps vieillissant. Il faut avoir de l'imagination et se convaincre qu'on a encore 40 ans, tout en se disant que l'autre non plus n'est pas un jeune premier, ajoute Louiselle avec humour. Le regard des enfants. Dans ce retour à soi, le regard des enfants peut aussi être paralysant. Pas facile pour eux de voir que leur parent décédé est remplacé. Ce fut très difficile pour ma fille, Karine, de voir sa mère accueillir un homme autre que son père dans son lit et dans sa vie, se rappelle Louiselle. Un sentiment normal que redoutent souvent les parents, confirme la psychologue. Il est en effet très fréquent que les enfants portent un jugement sur celle ou celui qui s'autorise à nouveau une vie affective. Ma fille avait une très grande admiration pour son père, poursuit Louiselle, et je crois qu'elle imaginait la peine qu'il aurait pu avoir en sachant que j'avais retrouvé une forme de liberté. Mais la réalité est que c'est à moi de faire mes choix de vie et de les assumer. Louiselle s'est permis de redevenir une femme. Pas seulement une veuve, pas juste une mère. Un regain d'adolescence. Émile a 59 ans lorsque son mari, Jérémy, demande l'aide médicale à mourir. Malgré leur grande complicité, les deux conjoints n'avaient plus de sexualité depuis quelques années, et durant la maladie longue et dévastatrice de Jérémy, ils ont pris le temps de parler de l'avenir d'Émile. Jérémy m'a clairement dit de continuer ma vie, et cela signifiait sans équivoque les relations amoureuses et sexuelles, raconte Émile. Il m'avait en quelque sorte préparé mentalement à ce que je ne ressente pas de culpabilité. Ayant fait une partie de son deuil en amont, Émile a eu des aventures peu après le décès de son conjoint, puis quelques relations à court terme. Je cherchais un remède à ma peine et ça m'a servi. Mes amis me disaient que je réagissais comme un adolescent. Un pas vers l'autre. Si on a été privé de sexualité dans sa relation de couple et que son conjoint décède, c'est normal que l'on soit émoustillé et que ce regain de libido soit associé à une sexualité juvénile, soutient Nathalie Parent. Le piège, c'est que l'on a parfois perdu l'habitude de séduire. C'est le cas d'Émile, qui a attendu les avances plutôt que de faire les premiers pas. Mais séduire est revenu assez vite, et en même temps, j'ai intégré le fait que j'étais redevenu célibataire, dit-il. J'ai pu assister à la renaissance du jeune homme que j'étais, qui tombait en amour au moindre frisson. Aujourd'hui, 4 ans après la perte de son grand amour, une nouvelle relation a pris place dans la vie d'Émile. À distance, cette fois. Patrice vit à Lyon et le nouveau couple ne se voit pas aussi souvent qu'il le souhaiterait. Une autre forme de deuil. Pour Louiselle et Émile, rien n'effacera la relation que la mort a fauchée, mais une page du grand livre est maintenant tournée. Et lorsqu'on est rompu au pire, on sait que la vie, avec ses surprises et ses contraintes, toujours tapis quelque part. C'était « Retrouver le désir après le deuil », un texte de Joanne Mercier, paru à l'automne 2024 dans le magazine Virage.
Trois défenseurs des travailleurs étrangers des maritimes appuient un rapport de l'ONU. Un texte de la presse canadienne paru le 15 août 2024 sur Ici Nouvelle-Écosse. les recommandations d'un récent rapport international qualifiant le programme canadien des travailleurs étrangers temporaires de « terreau fertile » pour l'esclavage moderne devraient inciter les gouvernements à améliorer le traitement des travailleurs étrangers, ont déclaré mercredi des défenseurs des travailleurs immigrants des maritimes. Le rapport de Tomoya Obokata, le rapporteur spécial des Nations unies sur les formes contemporaines d'esclavage, citation, fournit vraiment de nombreuses excellentes recommandations et un plan directeur sur la manière dont les gouvernements à plusieurs niveaux peuvent apporter des changements pour garantir que les travailleurs migrants sont traités équitablement et avec dignité. Fin de citation, avance Stacy Gomez, directrice générale du Centre pour les droits des travailleurs migrants de la Nouvelle-Écosse. Elle, ainsi que Raluca Bejan, professeur de travail social à l'Université Dalhousie, et Tracy Glynn, fondatrice du Madhu Verma Migrant Justice Center, basé au Nouveau-Brunswick, ont déclaré qu'elle n'était pas surprise que M. Obokata ait conclu, après avoir visité le Canada l'année dernière, qu'un déséquilibre des pouvoirs favorise les employeurs et empêche les travailleurs d'exercer leurs droits. Règles mal appliquées. Madame Bejan, qui a étudié les expériences des travailleurs étrangers temporaires, a avancé que l'un des plus grands problèmes des travailleurs migrants de la Nouvelle-Écosse est de vivre dans des logements surpeuplés. Bien que les travailleurs étrangers temporaires soient employés dans plusieurs secteurs, près de la moitié des immigrants qui arrivent en Nouvelle-Écosse font partie du programme des travailleurs agricoles saisonniers. Les immigrants travaillent dans des fermes et effectuent des tâches telles que la récolte de produits et l'élagage des cultures. Ils viennent au Canada pour des périodes allant jusqu'à 8 mois, en vertu d'accords conclus entre le Canada et le pays d'origine du travailleur. Madame Bejan a soulevé que même si le programme agricole saisonnier est plus réglementé que le volet des travailleurs à bas salaire pour les travailleurs étrangers temporaires, les règles ne sont pas très bien appliquées. Bien que le programme lui-même soit défini par des politiques fédérales, Mme Bejan a relevé que les opinions divergentes au sein du gouvernement de la Nouvelle-Écosse concernant le ministère qui devrait appliquer les règles peuvent entraver l'application de ces dernières. L'accès à un logement convenable pour les travailleurs est une préoccupation particulière pour les chercheurs et les groupes de défense de la province. En vertu des exigences du programme établi par le gouvernement fédéral, tous les employeurs doivent fournir un logement aux travailleurs et les politiques fédérales imposent un maximum de 2 personnes par chambre. Or, dans un rapport publié en mars, Mme Bejan et 3 autres chercheurs du groupe Temporary Foreign Workers Maritimes ont constaté que parmi les 15 travailleurs immigrants participant à l'étude, 10 vivaient avec au moins 9 autres personnes. Les chercheurs ont appris que de nombreux travailleurs migrants de la province vivent dans des conditions dangereuses où la moisissure et les parasites sont monnaie courante. Leurs recherches ont également fait état d'un manque chronique d'intimité et de difficultés d'accès aux machines à laver, aux appareils de cuisine et aux toilettes. Un accès aux soins difficile. Madame Gomez a déclaré que le manque d'accès aux soins de santé est un autre problème urgent pour les travailleurs étrangers temporaires en Nouvelle-Écosse. Les travailleurs saisonniers du secteur agricole ne restent souvent au pays que 8 mois à la fois, ce qui est inférieur à l'année complète nécessaire pour bénéficier de l'assurance maladie provinciale. Cela est différent dans des provinces comme l'Ontario et le Québec, où, dans le cadre du programme des travailleurs agricoles saisonniers, les travailleurs peuvent accéder aux soins de santé publique à leur arrivée. Le rapport de Mme Bejan a mis en lumière le cas de Kerri-Anne Burnett. La migrante jamaïcaine a reçu un diagnostic de cancer du col de l'utérus de stade 4 alors qu'elle travaillait dans une ferme de fraises en Nouvelle-Écosse et elle a perdu son emploi ainsi que l'assurance maladie et le logement fourni par son employeur. Madame Burnett a accumulé 81 000 $ de factures médicales après 2 opérations chirurgicales. Des membres de la communauté ont souligné sa situation. Après, elle a eu accès à un programme de santé fédérale. Barrières linguistiques et manque de formation. Madame Burnett n'est qu'une des nombreuses travailleuses immigrantes qui ont rencontré des obstacles pour accéder aux soins de santé, a souligné Madame Gomez. les travailleurs venant du Mexique ou des Caraïbes sont souvent confrontés à des barrières linguistiques lorsqu'ils naviguent dans le système de santé et ils peuvent parfois être confrontés au racisme dans le système de santé et se voir refuser l'accès à des informations médicales. Au Nouveau-Brunswick, où de nombreux travailleurs migrants sont employés dans des usines de transformation de fruits de mer dans le cadre du flux de travail à bas salaire, Mme Glynn a mentionné que les travailleurs sont souvent préoccupés par le manque de formation en matière de sécurité, en particulier lorsque des barrières linguistiques sont présentes. Citation : C'est un travail dangereux. Vous travaillez avec des machines qui traitent des pinces de homard. Les travailleurs devraient compter sur leurs collègues pour la traduction. Fin de citation, a soutenu Mme Glynn dans une entrevue. Mesdames Bejan, Gomez et Glynn étaient d'accord avec les critiques de M. Obokata concernant les réglementations canadiennes qui lient le statut de migration d'un travailleur à un permis de travail fermé et spécifique à l'employeur, limitant ainsi sa mobilité professionnelle. Ils ont tous déclaré que les permis fermés, réservés à un employeur, devraient être supprimés. Citation : Le problème avec ce programme, c'est que les gens n'ont pas la liberté de choisir un autre employeur s'ils veulent partir. Leurs contrats de travail ne doivent pas être liés à un seul employeur. Fin de citation, a plaidé Mme Bejan. C'était « Trois défenseurs des travailleurs étrangers des maritimes appuient un rapport de l'ONU », un texte de la presse canadienne paru le 15 août 2024 sur Ici Nouvelle-Écosse.
L'histoire de Montréal comme vous ne l'aurez jamais vue. Un texte de Marco Fortier, paru le 17 juillet 2024 dans Le Devoir. Dans l'espace public à l'entrée du MEM, Centre des mémoires montréalaises, une installation se moque gentiment de deux symboles de la métropole, un cône orange, quoi d'autre, et une série de panneaux d'interdiction de stationnement. Vous savez, ces pancartes qui semblent plus difficiles à déchiffrer que les hiéroglyphes des pyramides d'Égypte. La première exposition permanente du jeune musée, tout simplement intitulée « Montréal », célèbre sur le même ton décomplexé l'histoire plusieurs fois centenaire de la plus grande ville du Québec. « Montréal est grand comme un désordre universel », résume le grand Gaston Miron au début de cette expo captivante. L'île a mauvaise presse à cause de la congestion routière, de l'itinérance et de la crise du logement, mais l'exposition met en valeur le charme irrésistible du chaos montréalais. On revisite l'histoire riche et foisonnante de cette ancienne puissance industrielle devenue le lieu de tous les possibles pour des gens venus de partout dans le monde, qui deviennent d'authentiques Montréalais. La très belle salle du musée permet de voir, d'entendre, de rencontrer et de respirer la métropole à travers les récits de ses résidents d'hier et d'aujourd'hui. L'arrivée des colons français en pays autochtone, la Grande Paix de 1701, la conquête britannique de 1759-1760, la première synagogue à peu près à la même époque, les grandes familles Molson, Redpath, Steinberg, la création d'une élite francophone, les tensions linguistiques, la diversité culturelle grandissante, tout y passe. Mais le jeune musée, l'ancien Centre d'histoire de Montréal, devenu l'an dernier le MEM, Centre des mémoires montréalaises, a tenu à montrer les faces cachées de l'histoire de la métropole sous une multitude de points de vue. Pas moins de 407 personnes ont été consultées sur une période de plus de 5 ans pour l'élaboration de l'exposition. On est loin d'un récit axé sur la majorité blanche, canadienne-française, comme le souhaite le gouvernement Legault pour le futur Musée national de l'histoire du Québec. Quand on commence à lisser l'histoire, on oublie plein de monde, dit l'historienne Catherine Charlebois, chef de section et conservatrice du musée. Dans les recoins du passé. En reflétant la diversité réelle et factuelle de Montréal, on donne une valeur, une richesse et une profondeur à l'histoire de la ville, explique-t-elle. L'exposition explore les aspérités et les points de tension qui animent depuis toujours la métropole. on a le malin plaisir ou même de lever la jupe, d'aller regarder dans des endroits où on regarde peut-être moins. On aime mettre en valeur l'inédit. Ça nous plaît de nous promener dans les ruelles de l'histoire montréalaise, illustre Catherine Charlebois, en nous faisant visiter l'exposition. Le lieu et son architecture sont fabuleux. D'immenses baies vitrées donnent sur l'intersection du boulevard Saint-Laurent et de la rue Sainte-Catherine, épicentre de la vie montréalaise depuis plus d'un siècle. On a l'impression de voir l'histoire prendre vie sous nos yeux. Présentant une centaine de témoignages oraux et vidéos, des objets et des images emblématiques, l'exposition met en scène de façon dynamique et touchante les histoires singulières de Montréalaises et de Montréalais de divers horizons. Allant de l'individuel au collectif, de l'histoire officielle à sa trame cachée, le parcours muséal met en lumière la diversité des expériences citoyennes vécues au fil de l'histoire et pose un regard lucide sur notre mémoire collective, résume la documentation du musée. Vision contrastée. On ne s'ennuie jamais dans ce parcours bien conçu. Les visiteurs peuvent afficher sur de grands écrans des présentations multimédia où l'on voit et entend des gens raconter leur histoire. De grands événements, Expo 67, la construction du métro, des tranches de vie, des lieux marquants se rappellent à notre mémoire. Une histoire parmi d'autres. La dynamique et pétillante Maude Massicotte, atteinte de paralysie cérébrale, nous amène du quartier Ahuntsic au centre-ville en fauteuil roulant. On voit les hauts et les bas des déplacements des personnes ayant un handicap. On suit aussi Guylain dans ses pérégrinations d'itinérants. Une aînée Mohawk de Kanawake raconte l'histoire du point de vue des Premières Nations. Elle ne partagerait sans doute pas la vision des frères des écoles chrétiennes qui racontent ceci dans un vieux livre d'histoire du Canada. Chez les Indiens, les missionnaires sont venus. On fait connaissance avec la Rwandaise Perpétue Muramutse qui a fui le génocide de 1994 en apportant une casserole exposée au même, lui ayant permis de survivre dans des camps de réfugiés avant d'atterrir à Montréal. L'exposition vise à répondre à deux questions, explique la conservatrice Catherine Charlebois. Montréal, c'est quoi? Montréal, c'est qui? Sa réponse bien personnelle, d'après les témoignages qu'elle et son équipe ont recueillis, c'est une ville où je suis libre d'être moi-même. C'était l'histoire de Montréal comme vous ne l'aurez jamais vue. Un texte de Marco Fortier, paru le 17 juillet 2024 dans Le Devoir.